cœur. Déshonneur, t'aurais dû mettre un costard. T'as pas eu le temps de t'expliquer. Allez hop, tu t'es retrouvé embarqué en garde à vue.
Bonsoir, c'est Ondes Noires, une émission sur l'actualité du polar, présentée par Corinne et Jacques.
Bonsoir, et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Doa, Dewa. Bonsoir. Ça, est-ce, oui, on vous entend un petit peu.
Vous m'entendez là?
On vous entend parfaitement. Voilà, pour parler d'un livre sorti en février à la Série Noire, qui s'appelle Citoyens clandestins. C'est donc votre troisième roman.
Après, c'est mon troisième roman, effectivement. Oui.
Voilà, après Les Fous d'Avril et La Ligne de Sang, qui eux étaient parus chez Fleuve Noir.
C'est ça.
Avant de, on voudrait vraiment consacrer un maximum de l'émission sur le livre et pas sur tout ce que vous avez fait dans votre vie. Ça nous intéresse plus de parler de ce livre qui nous a beaucoup passionné. Mais seulement une petite question pour vous cerner, qu'on a dû déjà vous poser des dizaines de fois, pas sur la signification de ces trois lettres, DEOA, mais plutôt sur le pourquoi. Pourquoi écrire sous un pseudo?
Grande question existentielle. Pourquoi est-ce qu'on se cache? Alors, je ne me cache pas parce que j'ai un passé honteux. Je ne me cache pas non plus parce que je suis un espion ou un islamiste en vadrouille. C'est ce que j'ai lu et entendu à droite à gauche. Je me cache juste parce que je considère que, globalement, la personne que je suis au quotidien et la personne qui écrit des livres sont deux entités différentes et que l'une et l'autre n'ont pas empiété sur leurs existences mutuelles et respectives. Voilà.
Merci. Donc, on va maintenant parler de Citoyens clandestins, qui, comme je l'ai dit, est paru à la Série Noire. C'est un livre, ça aussi, on a dû vous le dire beaucoup de fois, c'est un livre très difficile à résumer. Est-ce que on peut parler d'un face-à-face? D'un côté, il y a les services secrets français, les multiples tentacules des services secrets français.
Oui.
Donc, que vous avez beaucoup analysé et, j'ai l'impression, beaucoup travaillé sur des documents.
Oui, il y a effectivement, en fait, la réflexion, elle s'est faite petit à petit. Au départ, j'avais envie d'écrire un livre sur le travail de la DGSE, un service extérieur, donc qui avait l'avantage de pouvoir nous sortir du pays, mais qui officieusement travaille aussi en France, même si normalement ils sont pas censés le faire. Dans le cadre du terrorisme islamiste, parce que nous cachons pas, quand j'ai réfléchi à ce livre, c'était peu de temps après le 11 septembre et que ce sujet-là prenait une telle importance dans l'actualité que c'est quasiment imposé de lui-même.
D'ailleurs, ce livre commence en 2001.
Oui. Effectivement, moi j'ai pris ça comme cadre parce que c'était peu de temps après. Il y a eu un autre événement qui nous a plus marqué nous, qui a été le 21 avril 2002. Donc je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir ces deux bornes temporelles. Mais donc je voulais faire un livre sur le travail de la DGSE parce que j'ai toujours trouvé, d'une part, que ça manquait dans le paysage du roman noir, parce que j'essaye de m'inscrire quand même là-dedans, national, de parler de l'espionnage. Ça, c'est un truc qui est très anglo-saxon, mais très peu français. Et ensuite, j'avais envie qu'on sorte un peu de l'image d'Épinal, de la barbouze façon Audiard, en impair, chapeau mou et pistolet à silencieux, parce que je trouvais ça un peu caricatural. Donc, j'ai voulu faire ça au début. Et puis, il se trouve que dès qu'on commence à travailler un peu sur les services secrets, sur les islamistes, sur ce qui se passe en France, sur les réseaux, on se trouve un peu à la croisée des chemins des autres services hors DGSE. Et comme mon ambition, alors je sais pas si j'y suis arrivé, mais enfin en tout cas c'était mon ambition, c'était de faire un roman que je qualifierais volontiers d'hyper réaliste, qui essaye vraiment de fouiller tous les aspects d'une question. Très rapidement, j'en ai conclu qu'il fallait que j'aborde les autres services aussi.
Et à la lecture du roman, cela semble évident après.
Voilà. Et il est évident que quand on aborde les autres services, on est obligé il y a des moments où ces gens-là se rejoignent. Alors quand je dis qu'ils se rejoignent, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait ils sont surtout en concurrence les uns avec les autres. Une concurrence qui ne devrait pas avoir lieu, puisque théoriquement ils travaillent tous dans le même sens et pour le même camp, mais qui a quand même lieu parce qu'il y a des ambitions personnelles, il y a des courants politiques, il y a des tas de circonstances qui font qu'à un moment donné, c'est pas forcément intéressant de passer son information à des petits camarades pour quand on travaille dans les services secrets. Donc du coup ça fait une confrontation, et la confrontation dans mon livre elle est plus là finalement que vis-à-vis des terroristes qui sont censés rechercher.
Oui, moi j'ai parlé donc de face à face, puisque en face, il y a donc ces fameux réseaux islamistes. Mmh. Donc, pour quand même donner un petit point de départ, c'est les services secrets français sont donc avertis qu'un Libanais veut acheter un gaz mortel qui a été livré des années plus tôt par l'Hexagone, par la France, à l'Irak, mmh. à l'époque où Saddam Hussein était encore un grand ami de ce pays.
Oui, il est resté longtemps. Hein.
Voilà, je suppose que toute ressemblance avec des personnages existants serait très fortuite, c'est ça? On va dire ça
comme
ça.
Oui, enfin, encore que cette phrase n'a aucune valeur légale en France. Hein. On peut le mettre tout où on veut dans un livre, ça ne sert absolument à rien.
L'opus Dei, c'est bien.
Il y a une volonté, en tout cas, il y avait une volonté dans l'élaboration du livre d'être le plus proche possible de la réalité, c'est-à-dire d'analyser quelles étaient les circonstances politiques qui pourraient nous amener bien des années plus tard à prendre des mesures draconiennes pour essayer que certaines choses qu'on avait pu faire avant nous reviennent dans la figure et nous pètent à la gueule. Et effectivement, même si vous voulez, c'est ce que je dis souvent aux gens, pris séparément, tous les éléments du livre sont réels ou réalistes. Leur combinaison est fictionnelle, hein. C'est-à-dire que l'histoire que je raconte, elle n'a pas eu lieu. En revanche, historiquement, on s'est effectivement rapproché de l'Irak à une certaine époque, au début des années 70 en particulier. Ce sont des gouvernements de droite qui ont opéré ce rapprochement, et en particulier, c'est Monsieur Chirac qui a été un des premiers signataires d'accords commerciaux avec l'Irak. Ces partenariats qu'on a pu conclure avec l'Irak, à l'époque, ils avaient aussi une dimension théoriquement militaire. Enfin, ils avaient une dimension militaire, bien que ils portaient principalement sur de l'équipement industriel civil. Mais l'équipement industriel civil chimique, c'est le même qu'on utilise pour l'équipement industriel militaire, parce que j'en veux pour preuve que l'origine du gaz VX, ce composant qui existe et qui est un des neurotoxiques de combat les plus mortels qui soient, ce sont des recherches civiles sur les pesticides.
Sur les pesticides, oui.
Le VX, c'est un pesticide qui a mal tourné. Donc, toutes ces choses, elles existent. On a effectivement aidé les Irakiens à construire des usines de pesticides. Ces usines, elles ont été détournées pour fabriquer d'autres produits. Les Irakiens ont eu du mal à synthétiser dans des formes stables certains produits militaires. En fait, ils avaient des produits qui avaient des durées de vie très courtes. On aurait très bien pu, ça je sais pas si on l'a fait, mais on aurait très bien pu à un moment donné leur fournir des échantillons pour qu'ils voient vers quoi ils devaient aller. Mmh. Donc c'est là que la fiction prend le pas sur la réalité, si vous voulez. C'est que je dis pas qu'on leur en a vendu, j'en sais rien. On aurait pu le faire parce qu'on savait le faire.
Alors je voudrais, tout à l'heure, vous avez parlé donc de tous ces éléments rassemblés pour donner une fiction. Je voudrais vraiment rassurer nos auditeurs, c'est-à-dire que c'est une fiction hyper bien ficelée, haletante. On a souvent parlé de thriller, mais moi je préfère vraiment le terme de roman noir, parce que ça décrit un aspect de la réalité et de la société d'aujourd'hui. Donc je préfère de beaucoup le terme de roman noir à celui de thriller.
Moi aussi, hein, je suis assez d'accord avec ça. Mais le terme thriller, il est venu du fait que l'éditeur l'a mis sur la couverture.
Puis donc ça marche mieux, des fois.
Oui, puis ça marche mieux. Ça parle tout de suite beaucoup plus aux gens.
Voilà, alors vous avez évoqué aussi effectivement les anglo-saxons, et c'est vrai qu'on peut penser aussi à John le Carré qui a fait beaucoup d'enquêtes et qui a fait vraiment une fiction. Et l'histoire marche du début à la fin des 700 pages.
Bon, oui, ça c'était pas forcément très évident au départ, et je crois que d'ailleurs il y a quelques personnes m'ont fait le reproche de la taille du livre. C'est quelque chose qu'on...
Ben, c'est surtout pour les gros livres, si vous voulez, monsieur l'auteur. Monsieur l'auteur, c'est surtout quand on lit les livres au lit, c'est difficile, quoi. C'est techniquement...
Oui, il est lourd.
Eh oui, c'est embêtant, on se prend sur la tête au moment où... Bah, alors...
Oui, parce qu'on l'a peut-être pas précisé, mais le roman, il fait près de 700 pages, donc...
C'est un livre idéal pour l'été, pour les gens qui ont un peu plus de temps à lire, pour lire
mais
un peu plus.
Vous parliez donc des divers services secrets, de leur interaction possible ou non, mais mm-hmm. Les services secrets sont censés être secrets, donc comment obtient-on les informations? C'est pas sur Internet, si? Sans dévoiler des sources. Hein.
Mais je vais pas dévoiler de sources. De toute façon, le fait est que l'information, elle est disponible. Le problème, c'est qu'il faut savoir ce qu'on cherche. C'est-à-dire que il y a une histoire des services secrets qui est documentée dans des publications publiques, enfin des livres commerciaux qu'on trouve dans le commerce, parfois anciens, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet qui plaît énormément, donc on a parfois du mal à retrouver les livres. Il y a les journaux qui en parlent assez souvent et fréquemment, et en particulier dans cette période-là, moi je retenais tous les journaux, donc il y a de nombreux articles qui parlent de ça. Il y a des choses beaucoup plus confidentielles comme des rapports parlementaires qui sont publics mais que les gens ne pensent pas forcément à aller voir. Après, il faut prendre le temps de les chercher. Donc, il y a toute une somme d'informations qui est à la disposition de celui qui veut bien la chercher. Le problème, c'est de vouloir la chercher et de savoir où la trouver. Mais elle est publique, elle est disponible. Donc ça a été une grande partie de mon travail, ça a été ça. Ne serait-ce que pour reconstituer des organigrammes et savoir à peu près qui appartient à quoi et dans quel ministère et quelles sont les chaînes de commandement, etc. Bon, ça, c'est disponible. Après, évidemment, ce qui me semble intéressant quand on cherche, une fois de plus, l'hyperréalisme, je vais utiliser ce terme assez souvent, je m'en excuse, mais c'est celui qui pour moi, résume le plus la chose, c'est d'aller au contact de gens qui ont pratiqué, non pas pour qu'ils vous révèlent des secrets sur des affaires en cours, parce que ça, à la limite, ils le feront pas, et c'est tant mieux, mais pour qu'ils vous expliquent plus comment ils le vivent. Parce que ce vernis de... la théorie qu'on trouve dans les textes, elle est très bien pour se faire une idée globale et dégrossir 80% du problème, mais les 20% qui restent, le vernis de la pratique au quotidien par les gens... Ça, c'est ce qui fait toute la saveur d'un livre. Et c'était mon ambition au départ aussi, qu'on ait vraiment l'impression d'être plongé dedans. Alors, ça a pris des formes diverses, ça. J'ai effectivement rencontré des agents de différents services, soit à la retraite, soit encore en activité. C'est plus facile de rencontrer des gens du ministère de l'Intérieur que de rencontrer des gens du ministère de la Défense, je ne vous le cache pas. J'ai moi-même, à une autre période de ma vie, fréquenté des militaires qui sont dans ces unités-là, donc j'avais une base de travail de certaines sensations et vécus que eux peuvent avoir, donc ça c'était pas un problème non plus. Et puis j'ai aussi fréquenté, pas en direct mais par des forums, notamment sur internet, c'est un outil fantastique, ça raconte beaucoup de choses qui sont n'importe quoi, puis ça raconte beaucoup de choses vraies, mais il y a sur internet des forums très actifs de gens qui sont par exemple des communautaristes ou des intégristes musulmans. Et c'est assez intéressant de fréquenter ces forums. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on voit comment ils raisonnent, comment ils parlent, comment ils se comportent entre eux et vis-à-vis du monde extérieur. Et ce vernis-là, j'en avais besoin aussi. Donc c'est avant tout un énorme travail de recherche qui est long, qui est fastidieux, qui est laborieux, qui peut être décourageant parfois parce qu'on trouve pas ce qu'on veut. Mais c'est ça. Et c'est finalement à la portée des gens qui ont le courage de s'investir là-dedans. Il n'y a pas grand-chose qui échappe à la sagacité des gens, et avec Internet encore moins qu'avant. Mais c'est vrai que c'est pas c'est une question vraiment de volonté et de méthodologie de recherche, plus que de trouver des secrets cachés, quoi.
Et puis après, il y a la patte de l'écrivain qui en sort...
Oui, après, il y a l'imagination qui fait le reste.
Voilà, une fiction. Avec en particulier, tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a intéressée dans ce que vous disiez au début de votre réponse, c'est le fait de parler avec les gens pour savoir ce qu'ils ressentent. Et ça aussi, c'est une des grandes qualités de ce roman, c'est d'être au plus proche des êtres humains, des différents, pas héros, mais des différents personnages du roman. De celui qui va s'infiltrer dans les réseaux islamistes, Karim, de la petite journaliste Amel, et même de celui qui pourrait être pris pour l'hyper méchant, puisque vous parlez d'hyper réalisme, je peux permettre de l'hyper méchant, le lynx. Et ces personnages, vous avez réussi à leur donner une vraisemblance, une humanité, et surtout d'éviter tout manichéisme entre le noir et le blanc, et de les rendre très gris tous autant qu'ils sont.
Mais en fait, moi je... Alors, il se trouve que par rapport, on va reparler deux secondes de mes livres précédents, moi, je progresse en écriture, hein, de livre en livre. Il est évident que j'avais, dans mes livres précédents, des tics de débutant, avec, souvent, pour moi, la psychologie, c'était du tartinage de pathos, avec beaucoup de pensées intérieures, etc., etc., etc. Bon, je me suis aperçu que ça, c'était satisfaisant dans un certain point, parce que les gens avaient immédiatement l'impression que on rentrait au cœur de la psychologie des gens, mais c'est vrai que ça venait comme des cheveux sur la soupe, parce que très rarement, quand on est soi-même au quotidien, on a des interrogations aussi profondes. On a plutôt des comportements ou des pensées qui nous traversent, qui témoignent d'un état d'esprit plutôt qu'une réflexion consciente sur cet état d'esprit. Et les Américains ont maîtrisé ça depuis assez longtemps, c'est une ligne dite behavioriste, où c'est le comportement, l'attitude et éventuellement les mots qui sont dits au cours de dialogue ou prononcés au cours de dialogue qui donnent par petites touches finalement une idée de la psychologie des personnages. Or là, une des choses qui a favorisé l'élaboration de la psychologie de mes personnages comme ça, c'est qu'effectivement je travaille par tableau. Comme c'est chronologiquement assez long et puis que tout se fait en temps réel puisque j'essaye d'examiner en tout cas pour mes protagonistes principaux la simultanéité de leurs actions, qu'est-ce qu'ils font à quel moment et comment. Du coup, je peux par petites touches rendre compte de leur état d'esprit et petit à petit, parce que c'est pas tout de suite, dresser un tableau qui sur l'ensemble donne une image de ce qu'ils sont. Évidemment, comme ça se passe sur plusieurs mois, il y a des variations dans leurs émotions et leur psychologie et c'est vrai que du coup ils sont moins manichéens, comme vous le dites, moins noir et blanc. Par ailleurs, ils sont confrontés à des réalités qui dans, une fois de plus, dans un souci d'hyper-réalisme, font qu'on ne peut pas appliquer des critères de simple blanc et noir, ou bien et mal, à leurs actions.
Alors, aussi, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que... vous vous situez un petit peu en dehors de tout ça, en dehors de ce tableau que vous êtes en train de dépeindre petit à petit tout au long et très méthodiquement au cours de ces 700 pages. Et c'est cette description qui est en fait très froide, très méthodique. Et vous prenez jamais parti, vous relatez les faits. Vous les enrobez avec toutes les effectivement la description de ces personnages et leur comportement. Mais... vous restez complètement en dehors, très froid en fait.
En fait,
c'est volontaire ou...
Il y a chez moi, et c'est une tendance qui va sans doute s'accentuer avec le temps, plus je mûris, moi, à titre personnel, plus je m'aperçois que la vérité, elle n'est nulle part. C'est-à-dire que chacun détient une part de vérité. Et puis, chacun détient une part de mensonge. C'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble si on s'embarquait dans des émotions trop fortes et juste portées par des opinions. Donc ce qui ne veut pas dire que par moment il ne faut pas prendre des positions tranchées en omettant certaines choses, mais en tout cas, dans mon travail, j'essaye de rendre compte de ça. Alors, cette volonté d'une certaine objectivité, elle est limitée par une chose, c'est que c'est quand même mon filtre personnel qui décide de qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas. Et ma subjectivité, finalement, c'est plus à travers ça qu'il faut la chercher dans les choses sur lesquelles je décide de mettre la lumière ou dans les creux de ce que je dis pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même à la base une volonté d'être relativement objectif et de ne pas prendre parti, juste de décrire les choses comme elles sont. Après... moi je sais que beaucoup d'écrivains sont assez tranchés dans leur position, je les respecte pour ça. Moi personnellement je suis un peu plus ambivalent, c'est-à-dire que je sais pas où est ma vérité, donc comme je ne sais pas où est ma vérité, je me vois mal imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc finalement le livre rend plus compte de questions, d'où une tentative de décryptage de la réalité de manière distanciée plutôt que de réponses. Ou à ce moment-là, j'apporterai mon opinion dans le texte. Donc, il y a vraiment chez moi ça. Je suis plus là pour poser des questions et essayer d'ordonner ce que je vois autour de moi, sans savoir si j'ai la solution, parce que je pense pas l'avoir, que d'amener une solution, ou en tout cas une direction de réflexion.
Alors, je me suis obligée, je suis désolée de vous interrompre parce qu'on a une petite tranche d'information de 10 minutes, mais on est loin d'avoir fini de décrypter et de donner envie de lire ce livre. Est-ce qu'on peut vous recontacter dans 10 minutes et continuer cette passionnante discussion ?
Aucun souci.
À tout de suite donc, merci beaucoup, à tout à l'heure.
Au revoir.
Au revoir.
18h30 sur Agora FM, bon début de soirée, tout de suite l'information régionale.